Le troisième livre, c'est « La faiblesse du vrai » avec le sous-titre « Ce que la post-vérité fait à notre monde commun ». Alors, c'est Myriam Revaud-Allonne, donc, ce qui est philosophe, professeur émérite des universités à l'École pratique des hautes études. Et elle a publié de nombreux ouvrages. Je pense qu'elle est suffisamment connue pour que je n'ajoute rien. Alors, la notion de post-vérité, de fake news, de vérité alternative, ces notions-là ont fait éruption à l'occasion du Brexit et à l'occasion aussi de l'élection de Trump. Alors, la post-vérité, ce mot est ainsi défini, ce qui se rapporte aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que ceux qui font appel à l'émotion ou aux croyances personnelles. Alors, le mot post-vérité dit que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, qu'il y a une rupture, ce qu'exprime le préfixe, et que la vérité en tant que valeur est délégitimée, abolie, elle est devenue secondaire, non pertinente, les faits objectifs ont donc moins d'importance que leur appréhension subjective. Alors Myriam Revaud-Allonne va interroger les rapports entre politique et vérité à certaines périodes de l'histoire, et cela en liaison avec des figures de philosophes de l'Antiquité et du monde moderne. Alors le premier temps, c'est que vérité et politique entretiennent des rapports plutôt compliqués, voire conflictuels. Alors le premier épisode, il faut remonter à Platon, et à Aristote, qui était opposé sur la question du rapport entre savoir et pouvoir, opinion et vérité, et langage politique. Alors pour Platon, Socrate, donc ça c'est la question du savoir et pouvoir, pour Platon, Socrate, épris de vérité, a été mis à mort par une foule en proie aux démagogues. À la suite de cette mort, donc, Platon a voulu construire une cité idéale en se réglant sur les exigences d'un modèle porteur de vérité. Et à ses yeux, c'est le philosophe roi qui est le mieux placé pour conduire une politique de la vérité. Il est celui qui sait où est le bien. Ainsi, il faut soustraire pour lui la pratique politique aux débats interminables qui accompagnent la vie démocratique. La position d'Aristote est tout à fait différente. Pour Aristote, le monde humain est un monde qui porte la marque de l'imperfection. Le politique doit donc affronter les événements et il n'y a pas de vérité préalable. Elle est à chercher dans l'action et non dans un savoir théorique immuable, d'où une préférence pour le débat qui favorise la capacité de jugement des citoyens. Alors l'autre motif d'opposition entre Platon et Aristote, c'est la question du rapport entre opinion et vérité. Platon condamne l'opinion car elle est trop variable et trop opposée à l'absolu de la vérité. Aristote, lui, préfère prendre en compte le probable, le vraisemblable, qui relève de l'imaginaire, plutôt que le vrai, qui relève du réel. Le vraisemblable est pour lui, le vraisemblable est recevable par l'opinion commune, en l'occurrence le public de théâtre, c'est là que ça intervient, c'est le poète. Le public de théâtre, et c'est le rôle du poète. Alors la dernière divergence porte sur le discours politique, puisque la parole est le premier des instruments de pouvoir. Pour Platon, la rhétorique ou art du bien dire, c'est un peu l'art de la tromperie. Le souci du dire vrai est abandonné au profit de la persuasion et de ses moyens que sont la flatterie, la séduction. C'était en fait un reproche adressé aux sophistes. Pour Aristote, il faut surmonter un usage, disons, sauvage de la parole en élaborant les règles de la compréhension commune de problèmes communs à la cité. Alors le deuxième épisode de ce conflit, c'est Machiavel. Alors Machiavel, 1469-1527, qui est à la fois un philosophe et un homme politique. Alors Machiavel, il a mauvaise réputation, il a donné son don à des conduites perverses de l'action politique, il est synonyme de calcul, de ruse, de mensonge, de manipulation. Alors, elle restaure un petit peu, ou elle réexplique ce qu'a voulu faire Machiavel. Bon, il a écrit Le Prince, hein, ça vous le savez tous. Donc Machiavel a revendiqué, en fait, l'émancipation du pouvoir politique, son autonomie par rapport au pouvoir religieux. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, on était dans une vision religieuse du monde, c'est-à-dire que la transcendance divine faisait que l'ordre politique n'était pas du tout remis en question, il était incontesté. Mais en sortant de cette vision-là, se pose la possibilité d'un pouvoir humain échappant au sacré. Qu'est-ce que le réalisme machiavélien ? Machiavel prend acte de la non-coïncidence entre la cité idéale et les exigences de la cité réelle. Il existe pour lui une temporalité de l'action qui consiste à adapter sa manière de procéder au contexte et situation. On parlerait maintenant de pragmatisme. Il y a donc une vérité temporelle et non conforme à un modèle préalable, immuable, de l'action politique. Et enfin, pour Machiavel, il existe donc un régime de vérité propre à la politique. C'est-à-dire, pour lui, la politique se déploie dans le visible. Or, et c'est l'homme, je cite Machiavel, « l'homme se repaît de l'apparence comme de la réalité. Souvent même, l'apparence le frappe plus que la réalité. » Donc, dans les conditions idéales, le prince devrait avoir telle qualité pour entretenir un certain rapport avec le peuple et conserver le pouvoir. Mais la condition humaine ne permet pas de posséder ni d'exercer toutes ces qualités. Alors, il faut alors qu'il paraisse les avoir. Mais le prince n'est pas maître de la représentation qu'il veut donner et que les autres lui renvoient. Ces qualités sont celles, en fait, que l'opinion lui reconnaît, de sorte que le pouvoir est fragile et sa maîtrise instable. Alors, deuxième grande partie, pourquoi le rapport entre vérité et politique s'avère-t-il problématique ? Myriam Revaud-Allen distingue différentes vérités, les vérités rationnelles et les vérités de fait, et elle examine leurs faiblesses. Alors, les vérités rationnelles, alors elle s'appuie sur Hobbes, fondateur de la philosophie politique et moderne, qui faisait une distinction entre les vérités qui découlent de la faculté de raisonner et celles qui procèdent des opinions. Or, en politique, si la faculté de raisonner est nécessaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'éloquence pour obtenir attention et consentement, la raison sera de peu d'effet. On est donc là en présence d'un antagonisme. La raison est fondée sur les principes de vérité, l'éloquence sur les passions, les intérêts. À l'époque moderne, comme au temps de Galilée, on constate que même les vérités rationnelles peuvent être mises en question par un pouvoir qui les juge dérangeantes. Alors, les vérités de fait. Là, elle s'appuie plutôt sur Hannah Arendt et qui a parlé du mensonge organisé par les pouvoirs politiques dans les régimes totalitaires. Myriam Revaud-Allen reprend les analyses d'Hannah Arendt pour étudier l'émergence des fake news ou faits alternatifs. Les vérités qui portent sur les faits peuvent être contestées car transformées en opinions. Alors, qu'est-ce qui fait la faiblesse de ces vérités de faits dans un cadre politique ? Elles reposent sur des témoignages et sont partagées par le langage. Les faits purs n'existent pas, ils sont toujours interprétés, organisés en récits. Il s'agit souvent de faits historiques ou sociaux qu'on dit contingents, c'est-à-dire dont la nécessité ne s'impose pas, leur opposé est possible, d'où une réécriture possible de l'histoire, ce qui a été fait très souvent et ce qui est encore fait. Le débat, troisième faiblesse, le débat est au cœur de la vie politique dans les régimes démocratiques. Ce qui n'est guère compatible avec le caractère indiscutable des vérités rationnelles et des vérités de fait. Alors, le troisième philosophe, après Hobbes et Arendt, c'est Foucault. Alors Foucault, lui, parle d'un régime de vérité, c'est l'expression, qui prévaut dans les démocraties libérales. Pour lui, il n'y a pas de vérité pure. Tout pouvoir s'exerce en s'accompagnant d'un, citation, rituel de manifestation de la vérité. La vérité peut alors fonctionner comme un instrument de domination. Exemple, la raison d'État comme principe de gouvernement, les discours économico-technocratiques comme vérité d'un pouvoir prétendument rationnel. Il est aussi question des travaux de Foucault sur la notion, alors ça je ne sais pas prononcer, parésia politique, je ne sais pas, ça va, traduit par franc-parler ou parler vrai, dans le cadre de la démocratie athénienne. Alors elle peut être négative, cette parésia, bavardage, démagogie, ou positive. Dans ce cas, elle est indexée sur la vérité, mais avec tous les risques encourus par le diseur de vérité. Il propose alors, enfin Foucault, une vision des rapports entre une forme de parésia éthique, l'accès à la vérité de la part du sujet fait l'oblige ce sujet à se transformer lui-même et à devenir un sujet éthique de la vérité. Alors la dernière grande partie, c'est elle différencie la fiction de la réalité alternative. Alors en lien avec le théâtre et la poésie grecque, Marianne Revaud-Allonne s'intéresse à l'œuvre de fiction en tant qu'elle a la capacité non pas d'effacer le réel comme la vérité alternative, mais de s'en distancier pour le redéployer autrement. Elle explicite la notion de mimésis à partir de Paul Ricoeur. Le philosophe parle de vérité métaphorique. Il propose un autre rapport au réel que sa simple imitation. Le récit de fiction procède à une suspension et non à une abolition du monde réel. Donc le monde réel, c'est la référence première usuelle, pour permettre l'ouverture à un autre monde, référence au deuxième degré, et qui permet effectivement d'avoir un rapport, d'expliquer en fait aussi le réel. Deuxièmement, la fiction permet en fait d'imaginer d'autres possibles et ainsi d'inspirer une pensée qui nourrit et enrichit le réel. Ainsi, pour Ricoeur, les utopies éclairent notre propre réalité et permettent d'envisager des manières de vivre radicalement autres. Il est aussi fait référence au concept forgé par Foucault d'hétérotopie, qui sont des espaces autres à l'intérieur d'une société et qui obéissent à d'autres règles, ce qu'il a fait avec les hôpitaux psychiatriques, je crois, c'est ça. Il est fait aussi mention, évidemment, à 1984, considéré comme une dystopie, c'est-à-dire une utopie qui vire au cauchemar. Donc voilà, donc la conclusion, évidemment, est un peu inquiétante. Enfin, elle se pose la question de la post-vérité nous risque de nous faire perdre notre monde commun, c'est-à-dire que la société serait atteinte dans ses fondements. La perte du commun risque d'affecter nos sociétés. Comment échanger les uns avec les autres? Comment entretenir avec le monde une relation fiable? Comment penser, juger, s'il n'y a plus l'évidence du réel? Voilà.